Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, c'est les rois.
Lidl ?
Ah oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Oh non patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Où j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas Béro, volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h54, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, toujours 2-0 pour City, on est dans le temps additionnel. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel et Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Bon, est-ce que tu considères qu'ils ont fait le plus dur là ce soir, City en gagnant à Tottenham ?
Ah ouais, c'était ce soir hein, que tout se jouait finalement, parce qu'à domicile contre West Ham dimanche, Arsenal recevra Everton de son côté. Je vois pas comment contre West Ham il pourrait maintenant pas être champion.
Un petit relâchement coupable, je sais pas.
Ils ont tellement l'habitude, Gilbert. Ils ont été dans ces situations-là tellement de fois sur les 7 dernières années, 8 dernières années. Ils sont allés gagner à Brighton quand ils devaient le faire. Ils ont gagné contre Aston Villa il y a 2 ans quand ils devaient le faire aussi, même si ça avait été un peu plus compliqué. C'est vrai, ils avaient été menés 2-0 à domicile ce match-là. Mais c'est ce soir et finalement, ça tout se joue sur cet arrêt incroyable du gardien remplaçant Ortega qui est entré à la place de Ederson blessé. Un contre un contre Son, peu le Colomouani Martinez de la finale de la Coupe du Monde, vous voyez un petit peu pareil, 86e minute cette fois, si Son marque ça fait un partout, et je pense que là en revanche c'est plus la même histoire du tout, et Ortega fait cet arrêt incroyable, vraiment un contre un, c'est quasiment le même arrêt mais de l'autre côté avec son pied droit.
J'ai bien vu Son, il joue très mal le coup, non ? Tu trouves pas qu'il a joué un peu trop facile ?
Si, peut-être, mais c'est la même chose que Colomouani finalement.
Dans le côté ultra décisif quoi.
C'est ça, exactement, dans le sens, et puis vraiment un contre un. Ouais, il essaie de croiser et c'est un bel arrêt de gardien de handball que Ortega fait. Là, si tu reviens à un partout à la 86e, c'est à mon avis, ça se finit en match nul et Arsenal a encore une chance. Et là, maintenant, deux minutes après, faute de Porro dans la surface sur Doku, penalty, Haaland transforme, doublé pour lui ce soir, 2-0.
Et Julien, c'est terminé quoi. Et Doku fait une entrée, fracassante. Hein, il a des occasions et tout. Il a fait la diff quand même.
Ah, c'est très fort, mais en plus dans un match pareil, Tottenham laisse beaucoup d'espace toujours, hein, toute la saison, c'est comme ça qu'ils jouent. Le City gagne le championnat ce soir sur cet arrêt de Stéphane Ortega, leur gardien remplaçant, qui d'ailleurs a été nommé homme du match par la télévision anglaise juste pour cet arrêt-là. Il a joué un quart d'heure, enfin 20 minutes. Donc c'est beau et on se rappellera souvent, je pense pour très longtemps encore, et du côté d'Arsenal et du côté de Manchester City, que finalement tout se joue quasiment sur cet arrêt-là, et c'est aussi ces moments-là qui font des saisons spéciales. Je racontais lundi, par exemple, rappelez-vous il y a ce but de Compagnie contre Leicester pour Manchester City, cette frappe de fou. Rappelez-vous,
magnifique sur la barre.
Voilà, c'est ça qui offre le titre à City cette saison-là. Ben cette année, c'est l'arrêt d'Ortega qui leur offre le titre.
Donc City va comme pas beaucoup d'équipes dans l'histoire de la Premier League en qui est un nombre de titres consécutifs, ou en tout cas, on va dire que leur domination sur les 6-7 dernières années est assez incroyable pour un championnat aussi concurrentiel que la Premier League. Ça, j'imagine que c'est évidemment mis en avant en Angleterre, félicité par tous. Est-ce que, dans le même temps, il y a des gens en Angleterre pour dire malgré tout, il n'y a eu qu'une seule Ligue des Champions et cette équipe, elle s'est pas toujours baladée dans cette compétition-là. Et dire également que sur 38 journées, ils sont imprenables avec un tel effectif, avec des tels principes de jeu. Ils ont des joueurs qui sont supérieurs, ils ont un effectif qui est supérieur à tous les autres, mais que sur un match aller-retour, qu'en Ligue des Champions, dans la dimension coupe, c'est moins évident pour eux. Est-ce que ça se dit en Angleterre ou pas ?
Non, pas trop, pas encore. Donc c'est leur 4e titre de suite, ce qui n'a jamais été fait auparavant.
Ben oui, c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est fou, cette domination elle est là. Guardiola répète autant qu'il peut que c'est beaucoup plus difficile de gagner un championnat à 38 journées qu'une Ligue des Champions à 6 matchs de poule.
Le problème c'est que ça il peut le répéter et que dans le débat il pourrait avoir raison, surtout en Angleterre. Ça tient pour l'Angleterre, parce qu'en revanche pour tous les autres championnats ça n'est pas vrai. Pour l'Angleterre, avec la richesse de ce championnat, je veux bien être d'accord avec lui, c'est faux. Honnêtement, pour les autres championnats, je suis pas d'accord avec lui.
Je suis d'accord.
Maintenant, il dit ça aussi parce que il bute sur la Ligue des Champions et que tactiquement tu trouveras tout le temps quelqu'un pour s'opposer à lui sur un match aller-retour et pour s'en sortir parce que tu peux lui opposer ce qu'a fait le Real, je te fais traîner jusqu'au péno. C'est, tu vois, c'est sont deux styles de football différents, deux réflexions différentes, parce qu'une équipe qui se sent inférieure peut jouer différemment et en Angleterre ça se fait pas trop. Et de dire bon bah écoute, on est moins fort, on va essayer d'aller braquer le match au péno, tout ça, ça fait également partie du foot. C'est dans la réflexion ouais. du foot. Et lui, avec ses grandes réflexions de puriste, il semble dire ça aussi pour ne pas reconnaître que bah, la Ligue des Champions et que les matchs de coupe, ça fait également partie de la légende du foot quand même, et qu'il peut pas prendre ça ouais, par-dessus la jambe. Il peut pas s'en décharger en disant ouais c'est plus dur les 38 journées, c'est plus dur ceci cela. Ouais, la Ligue des Champions c'est quand même la compétition la plus suivie au monde, et on a aussi envie de voir si t'es capable de faire la même chose en Ligue des Champions, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai, mais après t'as une Ligue des Champions pour le Liverpool de Klopp en 9 saisons. Donc est-ce que ça aussi c'est insuffisant? Je sais pas. Tu vois, un moment et
Klopp pourra te dire. Parce qu'il te semble toi que Liverpool a eu des équipes aussi fortes que City?
Non, mais
ah, putain, moi l'équipe qui gagne.
Non, mais c'est plus pour te dire.
L'équipe
non, mais c'est
qui gagne la Ligue des Champions avec Liverpool quand tu prends leur milieu de terrain, quand tu prends ce qu'ils avaient dans l'effectif par rapport à City, pardon et.
Non, l'équipe de Liverpool qui gagne la Ligue des Champions, celle qui perd en finale contre le Real, c'est les grandes équipes de Klopp. Mais c'était pas pour comparer City et Liverpool, c'est juste pour te dire que parfois tu peux avoir une très belle équipe comme celle de Klopp à Liverpool, comme celle au pluriel de Guardiola à City, avec encore une fois beaucoup plus d'investissement. Hier, on avait une question des auditeurs dans les drôles de dames sur quand est-ce qu'on saura les sanctions contre City pour toutes les charges qu'ils ont contre eux, les 115 charges
bah
qu'ils ont
ouais.
contre eux. Donc on saura l'année prochaine, on saura bientôt. Mais oui, tu perds aussi au but, tu perds en finale sur un but de Kai Havertz quand Guardiola fait des choix bizarres. On peut revenir sur toutes ces Ligues des Champions. Ils n'ont pas été loin, mais ils étaient ni loin ni proches.
Non, mais ils démarrent toujours favoris.
Quand même par la gagner.
Ils démarrent toujours favoris, mais c'est juste pour dire que, ok, l'Angleterre gagnait la première ligue, oui, les 38 matchs, son raisonnement tient. Bon, tu ne peux pas sans arrêt te défausser là-dessus, quoi.
Julien, non, c'est vrai. J'aimerais, parce que le temps nous est compté, je ne sais pas si tu as suivi l'actu de Saint-Etienne, mais il y a un gars que oui, tu connais sûr. Très bien, qui devrait arriver comme nouveau patron de Saint-Etienne, Gazidis. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Est-ce que tu vas délivrer un message, on va dire, rassurant aux supporters Saint-Stéphanois, ou plutôt inquiétant concernant le pédigré du gars, ce qu'il est devenu depuis son départ d'Arsenal? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux en dire?
Ouais, alors, pas que Gazidis, hein, mais aussi les deux personnes avec qui il va venir, Huss Famille et Jason Rosenfeld. Moi, je les connais bien, je les connaissais bien à l'époque d'Arsenal, les trois. J'ai que des choses positives à dire. Je trouve, moi, je veux pas me sauter pas dessus, hein, supporter stéphanois, si ça se passe pas très bien après, mais c'est trois profils qui se complémentent très bien. Déjà, Gazidis, la tête pensante, lui qui a été, par exemple, président, on va dire président de la MLS, c'est pas vraiment le nom, président, c'est pas le bon nom, mais voilà, qui a été le patron de la MLS, qui ensuite a fait, je trouve, un bon travail au Milan aussi. À Arsenal, c'était pas facile, c'était Wenger, c'était l'après-Wenger à gérer, il y avait pas trop d'argent, c'était un petit peu compliqué, mais c'est la tête pensante, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui parle plusieurs langues, qui est très bien éduqué, qui connaît très bien le football, qui a un très bon réseau. Huss Famille, c'est le négociateur. Vraiment, qui a un très beau réseau aussi, lui, dans son recrutement, dans les joueurs qu'il peut aller chercher, dans les contacts qu'il a, les relations qu'il peut avoir aussi. Et Rosenfeld, lui, c'est le geek, comme disent les Anglais, hein, c'est l'expert en stats, en data, en transfert, qui regarde les matchs, qui connaît tous les joueurs, qui connaît tout le monde partout, qui a cette connaissance-là du jeu. Moi, je trouve que c'est très bien, sincèrement, hein, quand on voit certains autres clubs français et étrangers qui ont été vendus à certains consortiums ou personnes qui sont pas tous très très légitimes, on va dire, ou très clean non plus.
Pour moi,
Strasbourg, au moins là il y a de la connaissance. Todd Boehly et Blueco, il y avait pas de connaissance, mais après ils sont allés chercher des gens, mais à la base il y avait pas de connaissance. Là t'as de l'argent déjà. Faut pas quand même oublier que Tannenbaum et son groupe à lui.
Mais rappelons que c'est pas un fonds d'investissement, hein. C'est une
voilà,
boîte.
Non, c'est Kilmer, c'est un milliardaire américain tout seul qui a créé une société qui lui permet d'acquérir des franchises ou des clubs sportifs à travers le monde, dont un petit peu comme Ineos finalement. Si vous le comparez, c'est un petit peu comme Ineos. C'est la ça. Même chose, sauf qu'ils sont canadiens et pas britanniques, et c'est pas Radcliffe. À la place, c'est Tannenbaum. Et ben voilà, Jean-Claude Blanc aujourd'hui,
Kilmer,
c'est Gazidis.
Val Kilmer, hein, c'est un autre.
Ça n'a rien à voir avec le Batman et l'acteur, non. Ouais. Mais voilà, Gazidis, c'est Jean-Claude Blanc, c'est l'équivalent à Ineos chez Ineos pour le groupe Kilmer. Donc voilà, pour moi c'est très sérieux. Voilà, c'est très positif en tout cas de ce que j'ai connu moi à Arsenal avec eux.
Bon ben merci pour les infos. Je pense que les Stéphanois sont contents d'entendre tout ça. Merci Julien, bonne soirée.
Merci les gars, à bientôt.
Ciao, gros ciao. Dossier droit télé à venir dans l'after, c'est tout de suite. Restez avec nous parce que vous allez apprendre plein de choses. On est là jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.